Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Il y a la chute de Tom qui chute parce que sur les pavés, justement, eh bien Benjamin Thomas, qui je pense va prendre le point, a glissé.
Oh la chute de Philipsen.
Une erreur d'un coureur qui était là-bas sur la droite.
Il y en a dans l'herbe.
Ouais, ouais.
Le carnage. Que faire, abandonner le maillot vert, c'est pas plaisir. C'était pas mon intention de créer une chute.
Une nouvelle chute dans ce peloton.
Je me demande si c'est pas Brian Coquard qui est encore tombé, le coureur de Cofidis. Coquard ou Renard, un des deux.
Je m'attendais à ce que vous soyez tous là. Je voulais pas vraiment faire le sprint final et une nouvelle chute, mais j'ai eu mal un peu partout.
Une énorme chute à l'arrière du
peloton. Avec Ben Illy.
Ouh là là, et du côté du coéquipier de
João Almeida qui se tient l'épaule. C'est pas bon signe pour Almeida.
Aïe.
Je suis tombé. Entendu
dans cette petite production, Jérôme Pinault de la Dream Team Vélo est avec nous. Salut Jérôme.
Salut les copains, bonjour
salut
à tous.
Jérôme.
Comment ça va
Jérôme.
Tu sais que Christophe Cessieux t'a mis un petit taquet. Je ne suis pas une balance à 9h. Il disait qu'il avait du mal à tenir. Voilà, comme ça je vous mets une bonne ambiance pour la suite du tour. Tout se passe bien quand même.
T'inquiète pas, il se porte très bien, Christophe. Il est solide sur ses appuis.
Il est une seconde jeunesse.
Il n'est pas prêt de nous déstabiliser avec GG Coppel. Je pense qu'on fait un beau duo. On est en train de le fatiguer, l'ancien. Il essaye de récupérer un peu plus chaque jour. Il est au lit de bonheur, mais il toxine. Il est un peu comme Vingegaard. Il optimise la récupération, mais est-ce que ça va suffire? On a un doute quand même.
Ou comme Joko. Arrêtez au sommet.
Ah, peut-être que c'est le moment. Bon, en tout cas, il va aller jusqu'au bout du tour. On verra comment on va le retrouver, notre Christophe Cessieux. Tu vas être avec nous, Jérôme.
Il est en pleine forme.
Évidemment, toi aussi, tu vas commenter la 8e étape sur RMC aujourd'hui. D'ailleurs, une étape qui devrait se terminer par un sprint massif. Et qui dit sprint massif dit alerte aux chutes aujourd'hui encore. Il y en a eu depuis le début de ce Tour de France, des chutes spectaculaires. L'une d'entre elles a notamment obligé Jasper Philipsen, alors maillot vert à l'époque, à abandonner. Les coureurs sont pointés du doigt. Ils vont trop vite, ils sont trop nerveux, ils ont des comportements dangereux. Certains coureurs, on l'entendra dans un instant, estiment que c'est l'organisation qui ne fait rien pour les protéger et qui même met en avant ces chutes pour le sensationnalisme. Alors, faut-il incriminer les coureurs? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Simon Dutin?
Incriminer, comme tu y vas, François. Mais allez, oui, quand même.
Fred a Jérôme dit
non.
Pinault?
Alors, oui, non. Si Fred a dit non, c'est oui.
Jérôme Pinault?
Ah oui, un peu, ouais.
Oui.
Ah ouais.
Ouais. Avant d'en débattre, les amis, on va accueillir Kevin Morand, un de nos envoyés spéciaux également sur le Tour de France. Salut Kevin.
Salut François, salut les GG.
Et oui, il est là, lui aussi. Il est en forme.
En très
Kevin.
Grande forme. Hein. Ah ouais, il a dormi hier à la maison.
Ah, les petites infos sur Kevin Morand, vas-y. Voilà.
Il est allé faire le ménage du musée du Stade Rennais. Bon, ça a duré 5 minutes.
Entre-temps, il a bossé quand même. Voilà, c'est ça. Il a bossé quand même, Kevin. Il est dans le peloton, il pose les questions, il tend son micro. Et au sein du peloton, justement, Kevin, cette question de la sécurité, elle est centrale. Mais quand on demande qui est responsable, les coureurs sont plutôt divisés.
Oui, après une nouvelle chute hier à l'approche de la bosse finale de Mur de Bretagne dans laquelle a été pris son coéquipier Wen Kostiou, le sprinteur d'Arkea BNB Arnaud Démare pointe le comportement des coureurs.
On sait qu'une performance sur le tour, ça peut énormément changer la carrière d'un coureur. Il y a de moins en moins de respect. Moi, quand je suis passé pro, aller mettre mon guidon, toucher Cancellara, Boonen, c'était pas possible pour moi. Alors qu'aujourd'hui, peu importe ton statut, tu te fais bousculer, donc ça aussi, ça a changé. Ouais.
Son homologue Michael Woods a eu un avis tranchant. Il a écrit cette semaine sur son blog: quoi qu'en dise ASO, ils adorent les accidents, le sang, les vélos cassés et un pauvre bougre qui se retrouve dans une ambulance. Le Canadien d'Israël Premier Tech met en avant responsabilité de l'organisateur. Michael Woods à notre micro.
C'est l'organisateur qui doit faire les règles, qui va nous protéger. Je crois que ce n'est pas le cas. À mon avis, on a besoin de plusieurs choses qui diminuent la vitesse et qui nous protègent. Et j'espère qu'il va changer les règles dans les prochaines années.
Et le coureur de 38 ans propose donc des solutions comme réduire la taille du peloton à 120 coureurs avec des équipes limitées à 6 et sans formation invitée.
Et Kevin, que répond l'organisateur du Tour de France au sujet justement de cette nervosité et des chutes qui peuvent en découler?
Bien écoutez, Thierry Gouvenou, le directeur de course du Tour, et c'est lui qui a tracé justement ce parcours, fait d'étapes parfois piégeuses.
La nervosité, elle a toujours existé sur le Tour de France. Là, c'est un peu exacerbé avec les arrivées au sprint massif, mais il y a toujours eu des chutes. Je m'aperçois quand même que le matériel ne permet plus aux coureurs de faire la moindre faute. Et dès qu'ils font une petite erreur sur leur vélo, ils sont éjectés du vélo. Et ça, c'est un vrai problème de sécurité pour les années à venir.
Autre son de cloche du côté d'un manager d'équipe et ancien coureur, Cédric Vasseur, à la tête de Cofidis, pour qui les raisons sont à trouver de part et d'autre.
On envoie les coureurs sur des routes où on demande aux voitures de rouler à 30 km/h. Quand vous arrivez à 60 km/h, c'est compliqué. On a aussi des coureurs qui ont un engagement fou, parce qu'on sait que si on freine, c'est perdu. Et puis, je pense aussi, l'enjeu du Tour de France fait qu'on ne voit pas le danger.
Les instances tentent de trouver des solutions comme l'utilisation du VAR pour analyser les conduites dangereuses, combinées à l'instauration de cartons jaunes cette saison. Brian Coquart en a fait les frais après la chute de Philipsen. RMC a interrogé Laurent, qui est commissaire de l'UCI, sur ce dispositif.
On voit la chute, on capte les images, on transmet aux collègues sur la route. Les collègues sur la route donc, décident de l'orientation de la sanction. Le soir, le directeur sportif vient dans le car, on lui montre les images, on entend ses arguments. Et une fois que le directeur sportif se retire, nous, on prend notre décision.
L'Union Cycle Nationale va aussi expérimenter la limite de braquet sur le tour du Guangxi en Chine en fin de saison pour limiter la vitesse.
Merci beaucoup, Kevin. Tu vois, il bosse, Jérôme, Kevin, pour justement interroger tous les coureurs et les managers. Merci beaucoup, Kevin. Bon courage pour ta journée sur cette huitième étape du Tour de France. La question, donc, on l'a vu, hein, ça divise beaucoup au sein du peloton. Est-ce qu'il faut incriminer les coureurs, 32-16 d'ailleurs, si vous voulez rejoindre le standard des GG. Pour toi, Jérôme, tu as dit oui, quand même, c'est de leur faute.
Ben oui, parce que je le rappelle, la règle de base sur une bicyclette, la manette à droite, c'est le frein arrière, la manette à gauche, c'est le frein avant. Et ça, ils sont pas interdits de s'en servir.
Déjà,
comme ça
choses.
Passe pas, faut freiner. Il y a deux choses, et il y a cette chose-là, c'est principal. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas répondre aveuglément et bêtement aux ordres donnés dans la voiture, et c'est eux les maîtres du jeu, c'est eux qui doivent savoir si ça passe ou ça passe pas. Déjà, c'est comme ça. Après, on met en avant l'organisateur, les routes. La plus bête chute, la plus idiote, et qui traduit parfaitement l'état d'esprit d'un peloton et l'importance du Tour de France, c'est quand même la première étape au Mont Cassel entre Benjamin Thomas et Matteo Verscher. Il n'y a pas de danger, ils font un sprint pour un point parce qu'au bout de ce point, il y a un maillot à poids du Tour de France et sur n'importe quelle autre course, on se serait arrangé et on n'aurait pas pris tant de risques. Et là, ils sont tombés tous les deux. C'est dire si les coureurs sont emportés par l'enjeu du Tour de France. Les coureurs sont pris par cet enjeu. Pourquoi ?
Oui,
parce qu'il y a une pression
folle.
Quand j'entends, mais si, c'est de plus en plus important, Pascal, non, parce que
le Tour de France
les
qui
points,
suscite l'engouement des coureurs, c'est depuis tous les temps que c'est comme ça.
Oui, mais ça peut pas être un argument, je suis désolé, Jérôme,
tu caricatures un petit peu ce que vient de dire Jérôme.
Ce que veut dire Jérôme, c'est qu'ils se battent maintenant pour le moindre point, même un point qui
alors c'est l'évolution de votre sport, c'est pas les coureurs.
Alors Pascal, moi j'ai été maillot à poids du Tour de France en 2006 puis en 2010. J'ai jamais fait des sprints au coude à coude, prêt à tomber avec le deuxième au classement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais un sprint quand tu vois que t'es battu. Il y a pas. Moi, j'ai vu Benjamin Thomas faire une vague sur le sprint inter, le sprint pour le point. C'est jamais arrivé. C'est de pire en pire. Les chutes de Philipsen, c'est pas la fausse de Brian. Brian, il y est absolument pour rien. On lui a mis un carton jaune. Je sais pas pourquoi. Il retombe après. C'est un sprint parce qu'il y a des vagues. Parce que ce sprint-là,
c'est un sprint intermédiaire.
À la grande époque des Cipollini et même après, McEwen, les autres, Peter Sagan, ça frottait pas autant. Aujourd'hui, le sprint inter, comme le parcours du Tour est très difficile, on se dit que peut-être Tadej Pogacar va gagner maillot vert. Donc sur chaque point, c'est quasiment une arrivée pour les sprinteurs. Parce qu'après, sur les arrivées à Mur de Bretagne ou à Vire, il n'y a plus les points pour les sprinteurs. Donc ils sprintent là. Donc le sprint est très, très disputé. Et c'est pour ça aussi que maintenant, les sprints intermédiaires, c'est des véritables lignes d'arrivée. Il y a sprint à 5 bornes, sprint à 2 bornes, une flamme verte.
Bon, mais là, tu es en train d'expliquer que ça cause l'organisation, alors, Jérôme.
Ah bah non, justement, l'organisation, c'est l'évolution du sport, ils peuvent plus avoir de l'organisation, ils sont obligés de le faire maintenant, et donc l'organisation fait en sorte que ça se passe comme ça. Fred, ne fais pas la sieste l'après-midi au moment du sprint.
Mais quand je t'écoute, ça me donne pas envie de dormir, c'est vrai, mais là, ça devient intéressant.
Mais moi, j'ai une autre lecture que toi, Jérôme, parce que en fait, toi, t'es un vrai spécialiste, et moi, je suis un vrai passionné de vélo. Donc je vais donner mon avis. L'avis, c'est que le sport évolue et le cyclisme n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pelotons, c'est moins disparate que ça ne l'était il y a encore 20 ans de cela. Aujourd'hui, les coureurs, ils se tiennent tous.
Parce qu'il y a plus de niveaux.
Il y a plus de niveaux, il y a plus d'enjeux. Et puis, un coureur qui se montre à son avantage peut changer sa vie. Peut gagner 10 fois ce qu'il gagnait au moment où il
Mais c'est ce que dit très très bien Arnaud Démare. Arnaud Démare le dit très bien dans son interview.
Ceci fait qu'il n'y a ni foi ni loi. certainement. Exactement. Donc la préparation,
donc c'est la faute des coureurs.
Le matériel. Non.
Ah donc c'est la faute des coureurs, Pascal.
Le matériel qui évolue, qui est de plus en plus performant. Les routes aussi, parce que aujourd'hui, bah t'as des îlots directionnels, t'as des ronds-points, t'as des dodanes, ouais, des chiens couchés, je ne sais plus que sais-je encore.
Mais et ça, puis il y a aussi
et là encore une fois, ce que je te dis là, je te le dis très honnêtement, il y a aussi la préparation des coureurs. Il me semble tellement bien préparé que je me demande si ils ont toujours le discernement nécessaire.
Voilà. Mais regarde hier la chute la plus préjudiciable du Tour de France pour le moment, avec l'absence de Philipsen qui était le grand favori du maillot vert. La chute aujourd'hui qui pour moi va peut-être faire un gros préjudice à l'équipe UAE, oui, c'est celle d'hier. Pourquoi sa chute hier, ouais. Donnez-moi une explication. L'organisateur, la route ou les coureurs?
C'est dans une descente.
Les coureurs hier.
Tout droit, c'est.
C'est une descente, faux plat, la route est nickel. Ils sont plus que 35. Jérôme,
moi j'ai une question, ça peut pas être les directeurs sportifs qui mettent la pression tout le temps avec les oreillettes?
Non, parce qu'à ce moment-là. Ah ouais. Alors,
non, mais je me pose la question. Mais je parle pas forcément. Je parle pas sur cette chute en partie, mais je parle en général. Cette pression incessante dans l'oreille d'un mec qui dit allez plus vite.
Et on le voit et on l'entend d'ailleurs, puisque le diffuseur diffuse les petits moments justement de ce qu'on entend dans les oreillettes. C'est toujours
insupportable.
Replace-toi. Sois devant, sois bien placé, oui, etc., etc. C'est une pression constante.
Mais vous pensez que il disait pas ses coureurs, bouge-toi un peu le cul.
Après, il n'y avait pas d'oreillette aussi à l'époque. Ah, maintenant, il y a des oreillettes, donc on leur parle tout le temps.
Voilà un outil qui, pour moi, correspond à la réalité des faits. C'est-à-dire que on parle du matériel. On sait que l'UCI a mis un règlement en place pour que le cintre soit au moins large de 40 cm. Parce qu'on avait tendance à diminuer de plus en plus les cintres. Les cintres, c'est pour piloter le vélo quand même. Donc, plus le guidon est large, plus on arrive à manier. Mais ils sont en train de vouloir limiter les braquets, vouloir faire des pneus qui avancent moins vite. Mais arrêtons déjà les oreillettes. Déjà, si on arrête les oreillettes, quand on sait que la moitié des coureurs aujourd'hui sont téléguidés, si on arrête les oreillettes, certains coureurs vont devoir étudier la carte, mettre en place une stratégie et apprendre par cœur les endroits importants où il faut se placer. Parce qu'en ce moment, la consigne la plus donnée dans le peloton, c'est quasiment tous les 5 bornes. Les gars, il faut se replacer à l'avant, ça va être dangereux. Mais oui, mais c'est dangereux partout en ce moment.
Ça devient dangereux.
Donc, c'est bien l'évolution du sport et non les coureurs.
Et donc, c'est plus seulement les coureurs, c'est aussi les directeurs sportifs, l'oreillette, etc.
Malgré tout, Biggie, le truc, c'est que c'est les coureurs qui pédalent et qui sont sur la selle et qui sont au volant de leur guidon.
Oui, mais donc ils sont mis sous pression sans arrêt. Je suis d'accord. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils sont blancs comme neige. Fredo, je suis en train de dire qu'ils sont téléguidés.
Simon, après.
Le Tour de France, ça a toujours été la plus grande course du monde, mais je crois qu'on réalise mal l'ampleur qu'a pris cet événement ces dernières années. Gagner une étape du Tour de France n'a jamais été aussi valorisé et du coup aussi prisé par des coureurs qui sont, je parle sous le contrôle de Jérôme, de plus en plus nombreux, la densité du peloton, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux, en fait, chaque jour, à pouvoir viser la victoire. Et ça, c'est parce que les organisateurs ont fait un boulot remarquable dans la réinvention du tracé. Je veux dire, il faut se souvenir qu'avant, on commençait par 8 étapes, on savait que ça arrivait au sprint, et en effet, la sieste, elle était inévitable. On avait les pales de l'hélico, on entendait vaguement le public, et on savait que ça allait jouer entre 3-4 mecs à l'arrivée. J'ai l'impression que ces dernières années, les sprints se préparent, commencent à se jouer à 10 km de l'arrivée, là où avant, ça se jouait dans le dernier kilomètre. On avait vaguement un poisson pilote dans les grosses équipes, alors que maintenant, en effet, il y a quand même une énorme bagarre avec des trains ahurissants.
Qui sont très nombreux à sprinter.
Finalement, c'est un cercle vicieux parce que plus il y a de chutes, plus on essaye de courir devant, donc plus on prend les risques de chuter pour remonter le peloton avec une nervosité qui a augmenté.
Mais donc ça cause des tracés.
Les vitesses moyennes.
L'organisation qui s'occupe des tracés.
Non, mais c'est le comportement.
Si le tracé te permet de faire ça, c'est pour ça que les coureurs se mettent à faire ça. Donc il y a un problème de tracé et il y a un problème de nombre de coureurs aussi.
Dit Michael Woods, il dit qu'il y a trop de coureurs aussi dans le peloton.
Mais ça, c'est une hérésie, ça, c'est une bêtise phénoménale. Il y a 15 ans ou 10 ans,
quand j'ai commencé le vélo,
il y avait 20, mais moi aussi j'y ai été, 22 équipes à 9 coureurs. Mais oui. 22 équipes à 9 coureurs, d'accord ? Ça fait plus de coureurs que 23 équipes à 8 coureurs. Donc il faut arrêter avec ça.
Calcul.
On va pas.
On oui, mais Jérôme, il y a plus de coureurs devant parmi ces équipes-là. Il y a plus de mecs qu'on retrouve à l'avant du peloton maintenant.
C'est parce que là, Pascal a raison, les coureurs sont mieux préparés. Il y a aussi quelque chose qui est un vrai phénomène. C'est pour ça que Michael Woods, il dit une grosse énerie. Parce qu'il dit, ouais, il faudrait être 120. Mais mec, s'il y a 120 mecs au départ, ça veut dire qu'il y a 4 équipes de moins dans le monde et que peut-être toi, tu vas être dans le peloton, Woods, mais tous tes collègues au départ avec toi, ils n'y seront pas. Il faut aussi savoir que c'est le Tour de France, il n'y a pas que ça, il y a toute l'année aussi. Et aujourd'hui, on est en train de perdre des équipes faute de moyens. Donc comment on peut expliquer aux équipes qui vont chercher 40 ou 30 patates que demain, on va diminuer les
coureurs? Mais c'est pas possible. Il dit, c'est le business qui met en danger les coureurs.
Parce que c'est un coureur qui a passé la trentaine et que lui, il arrive à la fin. Il pense à lui, il pense pas aux autres. Lui, Woods, ouais, il attend d'arriver au sommet en troisième semaine.
Il attend dans les bois.
Il n'y a plus d'enjeu et il n'y a pas besoin. Bien, très, très bon. Et il n'y a plus d'enjeu et donc il peut tirer son épingle du jeu. Mais le vélo et le Tour de France, ça a toujours été ça. Bon. Aujourd'hui, il y a une chose aussi, un phénomène qui monte, c'est le collectif. Dans le vélo, aujourd'hui, il y a de plus en plus de collectifs soudés autour d'un ou deux leaders. Et on s'aperçoit que pour faire carrière, certains coureurs, comme Ricard l'autre fois, qui a été abominable avec Brian Coquart avant de s'excuser. Ricard, il doit sa carrière à Mathieu Van Der Poel. C'est-à-dire que lui, si Mathieu Van Der Poel est toujours copain, il adore son travail, il va faire carrière avec lui. S'il est seul sans Mathieu, Ricard, je ne suis pas sûr qu'il soit encore professionnel. Donc, il se met au service de Mathieu Van Der Poel et il prend tous les risques pour Mathieu Van Der Poel. Mmh. Et il joue des épaules, il joue des coudes. Je pense qu'il est aussi là pour son physique. Et il y a beaucoup de coureurs comme ça dans le peloton qui rendent le peloton très dangereux. Et c'est ce que dit Arnaud Démare. Il n'y a plus ce respect-là parce qu'un équipier d'un leader, quel que soit le nom, est capable de venir mettre un coup de coude à Tadej Pogacar parce que lui, il bosse pour un autre. Et c'est aussi pour. Alors, ce n'est pas une manque de respect, c'est juste une génération qui change, un peloton qui évolue et qui est prêt à tout pour faire sa place. Exactement.
Alors, à 11h24, le débat continue avec Mathieu qui nous rejoint au 32-16, fan de vélo. Merci beaucoup, Mathieu. Salut.
Oui. Salut les grandes gueules, c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les week-ends. Moi, merci. Je trouve ce débat super intéressant et en fait, je trouve que vous avez en fait répondu tout seul à la question. C'est-à-dire qu'on a évoqué tous les facteurs. On a évoqué le facteur organisation de la course et tracé, où effectivement, faut bien réfléchir quand on fait son tracé pour éviter tous les dangers possibles, comme on l'a vu à l'étoile de Bessèges cette année avec les bagnoles en contresens, ou même là sur le Tour de France, faire un sprint intermédiaire en centre-ville sur des pavés. Je trouve pas que ce soit forcément une très bonne idée. Donc il y a le facteur organisateur, où ils ont quand même leur part de responsabilité.
Alors Mathieu, le sprint intermédiaire où est tombé Philipsen, c'était absolument pas sur des pavés. Le sprint où sont tombés Thomas et Verscher,
oui, je parle
c'était
de celui
dans Moncassel en boss. Ouais, mais c'est Moncassel en boss, les mecs, ils sont deux, ils tombent. Je veux dire, là, c'est une erreur des deux coureurs.
Et donc, j'en viens à mon point suivant. Effectivement, il y a le problème aussi des coureurs, de leur comportement, quoi. Vous l'avez dit, en fait, il y a peut-être pas forcément un manque de respect, mais chacun veut tirer son épingle du jeu dans le peloton. Il y a peut-être moins de patrons qui sont à même de s'imposer dans le peloton pour faire respecter une sorte de hiérarchie.
Qu'est-ce qui manque les leaders, Lance Armstrong,
voilà, un peu. Alors oui, on peut faire tous les reproches du monde à Lance Armstrong, mais mine de rien, ça avait au moins la possibilité de poser les choses en termes de hiérarchie dans le peloton. Et quand on voit hier.
On peut pas entendre ça.
Sujet glissant, Mathieu.
Oui, voilà. C'est pour ça que je vais pas m'étendre. Mais bon, notre
attention à la chute.
Hier, il tombe tout seul, comme un grand garçon. Il met peut-être en péril le tour de Pogacar. Ouais. Et surtout, il fout en l'air toute l'équipe Bahreïn avec Buitrago qui tombe et son lieutenant qui tombe. Et peut-être que les deux vont abandonner aujourd'hui dans les jours à venir. Donc en fait, oui, effectivement, il y a, comme en Formule 1, il y a des mecs derrière un volant. Là, il y a des mecs sur un vélo. Et je trouve que effectivement les comportements à risque et le carton jaune, c'est une très bonne chose. Et si ça peut permettre de suspendre 10 jours un mec qui est dangereux dans le peloton, qui ne sait pas frotter, et ça va peut-être un peu calmer aussi les mentalités sur ce point-là. Quoi.
C'est vrai que tu soulignes, alors Mathieu, merci beaucoup, mais tu soulignes effectivement l'utilisation du carton jaune. On l'a vu notamment sur Brian Coquart. Mais est-ce que ça peut réellement avoir un impact? Est-ce que c'est la solution pour calmer les coureurs? Jérôme, en un mot.
Ah ouais, moi je pense que c'est un bel outil à partir du moment où c'est bien utilisé par des gens compétents. Et la preuve en est, c'est que sur Brian Coquart, c'est une honte. C'est tout le peloton l'a dit, toute la caravane du Tour et tout le peloton a dit. Ils se sont trompés. Non mais Pascal, c'est comme les arbitres à la VAR, c'est-à-dire que quand tu peux te tromper, tu dis je me suis trompé, on vient en arrière.
Et puis là, ça te rend humain. Parce que sinon, c'est des commissaires, ils sont dans leur camtar, ils jugent un mec, ah, oh, il y a eu chute, on lui met un carton, puis le lendemain, tout le monde dit, non, mais ils se sont trompés. Même Philippe Sen a appelé Cocard pour dire, tu t'es pas trompé, oh, t'as pas fait l'erreur.
Bah, eux,
ils sont restés là-dessus. Tu sais ce que c'est, Pascal, un carton jaune dans le tour, c'est que s'il en prend un deuxième, bah aujourd'hui, il fait une vague. Voilà. À l'interprétation de ces messieurs qui n'ont jamais fait de vélo, il est exclu du tour quand même.
Ah ouais, ouais.
C'est grave ce qui s'est passé.
Donc il n'y a pas de. Et d'ailleurs, il y a un très bon reportage à retrouver sur mcsport.fr sur justement ce camion VAR. Mais effectivement, il n'y a pas de coureur professionnel ou d'ancien coureur dans ce, voilà, dans ce camion VAR, a priori.
Ah ouais.
C'est ça?
C'est à peu près.
Ah non, non, il n'y a pas d'ancien coureur, voilà. Je te confirme. Il n'y a pas d'ancien coureur. Voilà. Et aujourd'hui, Jérôme Pinault, qu'est-ce qui va se passer pour Brian?
Il n'y a que des journalistes ou quoi?
Non, c'est des commissaires, c'est des arbitres, voilà. Si tu veux.
C'est leur job. Vous buvez des bières avec eux après les étapes, avec les commissaires ou non?
Mais tu sais bien que chez RMC, on ne boit pas de bière.
Déjà, oui.
Ah, pardon?
Attention, l'abus d'alcool est dangereux.
Non, mais franchement, c'est un peu humain. Et si tu veux, il y a un blessé. Alors grave, puisqu'il a perdu son maillot vert et il a abandonné le tour. Il y a un homme blessé, on l'a vu, il a les larmes aux yeux pour venir s'expliquer. Il est aussi tombé, c'est-à-dire qu'il est aussi victime d'un mouvement de course. Quand tout le peloton te dit, il n'y a pas eu faute, le principal incriminé et le principal victime sont d'accord, ils se tapent dans la main, ils s'appellent. Un peu d'humanité. Les gars, on a lu le carton jaune, on s'est trompé. C'est le vélo, ça va. S'il y a des chutes, il y en aura toujours. Et tu peux faire tout ce que tu veux. L'illustration hier, c'est la chute, notamment d'Almeida. Mais si on revient un peu plus tôt dans la course, ils sont tombés au pied du mur de Bretagne. Ça, c'est quoi? C'est pas la route qui est pas large. C'est pas la dangerosité. C'est pas la vitesse. C'est le peloton, c'est les comportements, c'est le vélo, il y a des chutes et ce sera toujours comme ça.
Bon, Jérôme, on garde encore sous la pédale, hein, parce qu'on va avoir besoin de toi tout à l'heure pour le 8e étape.
Les gars,
oui, mais t'es au taquet dès 11h28.
Calme-toi,
c'est
parfait. Jérôme, calme-toi.
Oui, vas-y, Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais c'est une étape, Fred, Simon, vous allez pouvoir faire une grosse sieste.
Voilà,
à mon avis.
C'est ça, ça va être la grosse sieste de Simon et de Fred, mais je crois qu'ils ont.
J'imagine.
Ils ont prévu ça au programme de leur après-midi.
Je crois que c'était prévu.